Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 250 millions d'euros sur la table pour calmer la colère des policiers, pour des armes, des gilets pare-balles, des véhicules, rénover aussi les commissariats notamment. De belles avancées selon les syndicats qui répliquent face à la défiance de la base. Analyse de Bénédicte Robin dans ce journal.
Et puis, deux questions à 7h40. Chômage, les chiffres peuvent-ils rendre compte de la réalité? Et à 8h20, un invité exceptionnel, le maire d'Alep, à notre micro pour témoigner du sort de cette ville martyre. Et enfin, le sujet du jour, que révèle la crise d'ITL?
À 7h13, la chronique économique de Jean-Marc Chardon sera consacrée aux recettes de la Banque mondiale pour faire du business dans le monde. Mais nous irons avant en Afrique du Sud où les étudiants ont encore manifesté contre la hausse des droits d'entrée à l'université. Précision à suivre avec Nadine Epstein.
Et face à la Russie, l'OTAN confirme le renforcement de ses positions dans les pays baltes.
Analyse avec Laxmi Lota dans ce journal. Les migrants évacués de la jungle de Calais s'installent dans les centres d'accueil où l'accueil des habitants est pour l'instant mitigé, nous dira Elodie Forêt. Et puis alors qu'Arnaud Montebourg, favori de la primaire organisée par le Parti Socialiste, tente de se placer dans la lignée de François Mitterrand pour le centenaire de la naissance de l'ancien président de la République, tout le monde essaye de récupérer un petit peu du prestige. Des avancées pour les policiers selon les syndicats à la sortie de la réunion qui s'est tenue hier à l'Élysée en présence de François Hollande, du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Un plan de 250 millions d'euros a été présenté après 10 jours de protestations pendant lesquelles beaucoup de manifestants ont dénoncé une crise de confiance envers leurs représentants syndicaux, Bénédicte Robin.
Les syndicats de police sont ressortis plutôt satisfaits de leur entretien. La première satisfaction, il y a un calendrier en particulier sur la question de l'élargissement des conditions de la légitime défense. Une concertation de 3 semaines doit être lancée et aboutir d'ici la fin du mois de novembre pour être présentée au Parlement. De même pour l'alourdissement des sanctions pénales en cas d'outrage à l'encontre des forces de l'ordre ou encore des mesures pour protéger l'anonymat des agents dans certaines procédures. À quoi s'ajoute la fin des missions de surveillance statique dès les prochaines semaine. En plus de ces promesses aux symboles forts, il y a bien sûr le concret des moyens avec une enveloppe de 250 millions d'euros pour moderniser les équipements et les infrastructures. De belles avancées, soulignent les syndicats, qui veulent montrer à ceux qui manifestent depuis 10 jours, souvent en critiquant l'action syndicale, qu'ils agissent bien pour eux. Jean-Claude Delage est le représentant d'Alliance Synergie CFE-CGC.
Le président de la République, il a dit la représentativité légitime, ce sont les organisations syndicales de la police. Pourquoi ? Parce que nous sommes élus à plus de 85%. Il y a 85% des policiers qui votent aux élections professionnelles. Donc ça, je crois que c'était important de le rappeler à l'heure où beaucoup de médias, et certains en particulier, insistent beaucoup sur le fait que les syndicats seraient décrédibilisés. Eh bien, nous n'avons absolument pas ce sentiment-là, puisque au plus on nous voit et au plus on obtient. Donc aujourd'hui, nous portons la parole des policiers, ceux qui aussi s'expriment la nuit. Mais nous portons la parole légitime des policiers.
La réponse à cette affirmation se verra dans la poursuite ou non des mouvements de contestation.
Bénédicte Robin. Près de 5600 migrants de la jungle de Calais, mis à l'abri, selon les mots du gouvernement. Il en reste encore quelques centaines dans la lande depuis le début de l'évacuation commencée lundi en direction des CAO. Les centres d'accueil et d'orientation. Elodie Fauré nous emmène ce matin dans celui de Forges-les-Bains, tenu par Emmaüs Solidarité dans ce petit village de l'Essonne. Un centre qui a focalisé beaucoup d'inquiétudes et de colère. Incendie volontaire début septembre, suivi d'une réunion publique houleuse. Et puis finalement, depuis octobre, 44 premiers migrants afghans sont arrivés, suivis de 37 autres il y a 2 jours, dans le calme.
Dans le réfectoire, c'est l'heure du cours de français.
Qu'est-ce qu'on met sur la tête ? Et qu'est-ce qu'on met quand on a froid ?
Autour des deux éducateurs, une dizaine de migrants, dont Shazad, 30 ans. Il s'éclipse pour nous montrer sa chambre à l'étage.
Là, c'est ma chambre. Je vis ici avec 3 autres personnes, c'est vraiment bien. On mange, il y a de la lumière, il y a de l'eau, je n'ai aucun problème. C'est ma chambre, c'est ma maison.
Des chambres lumineuses, des sanitaires propres, mais aussi une future salle de classe, un cyberespace et un potager. Le CAO de Forges tente d'offrir à ses migrants un peu de chaleur, de réconfort. Mais séquelles de l'incendie oblige, on leur a aussi raconté ce qui s'est passé dans le village avant leur arrivée.
On leur a dit que ça n'avait pas été facile.
Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité.
Mais qu'on était là pour les accueillir. accompagné et je n'ai pas eu de retour de difficultés particulières.
Je n'ai pas encore rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré un jour quelqu'un à la gare, une femme. Je lui ai posé une question et elle ne m'a pas répondu. Elle m'a juste ignoré. Là, je me suis senti un peu triste. J'ai compris que tout le monde n'était pas heureux de nous voir ici.
Heureusement, dans les jours qui viennent, Shahzad fera d'autres rencontres. Une centaine de personnes s'est déjà portée volontaire pour être bénévole dans le centre.
Le sommet entre le Canada et l'Union européenne est annulé, décision annoncée hier soir après d'ultimes pourparlers sur le CETA entre le gouvernement fédéral et le Parlement de Wallonie qui a voté non au traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. Ottawa espère toujours une signature prochaine du traité. Les discussions suspendues hier soir devraient reprendre aujourd'hui. Le Royaume-Uni va déployer des avions de chasse en Roumanie. Les États-Unis promettent des troupes, des chars et de l'artillerie en Pologne. Alors que les avions russes multiplient, eux, les démonstrations de force en longeant les côtes européennes pour rejoindre la Syrie. L'OTAN a confirmé hier un renforcement de sa présence militaire dans les pays de l'Est de l'Europe. Conclusion de la réunion des ministres de la Défense à Bruxelles. C'est la plus forte concentration de force de l'Alliance Atlantique depuis la guerre froide. À Bruxelles, Lakshmi Lotha.
Le secrétaire général de l'OTAN affirme que l'Alliance ne souhaite pas provoquer un conflit avec la Russie, Jens Stoltenberg.
L'OTAN ne cherche pas la confrontation avec la Russie. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, ni d'escalade dans l'armement. Nos actions visent à nous protéger et elles sont proportionnées.
Le chef de l'OTAN a rappelé qu'il était favorable au dialogue politique, mais l'Alliance se doit d'agir, dit-il, parce que la Russie est prête à user de la force contre nos voisins, l'Ukraine, la Géorgie. Jens Stoltenberg confirme un renforcement de la présence alliée à l'Est, 4000 soldats en Pologne, Lituanie, Lettonie et Estonie.
Nous avons décidé en juillet dernier de déployer ces troupes début 2017. Elles seront toutes présentes d'ici l'été prochain. C'est toujours notre plan, nous sommes prêts et nous agissons pour consolider notre projet. L'OTAN doit agir pour que nous puissions continuer à représenter une dissuasion crédible. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de rester fort, unis et fermes dans notre réponse.
Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, les pays membres de l'OTAN en Europe centrale et orientale ne cachent pas leur inquiétude. Ils ont obtenu des renforts, des soldats forts, prêts au combat et qui enverront un message sans équivoque, dit le secrétaire général. L'OTAN ne fait qu'un.
Lakshmi Lotha.
7h08 sur France Culture, la suite du journal. Sophie Delpont, des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Caracas contre le président Maduro au Venezuela.
Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre, des dizaines de manifestants blessés, un policier tué par balle, deux autres blessés. Une ONG de défense des droits de l'homme a comptabilisé 80 arrestations à travers le pays. L'opposition dénonce un coup d'état de Nicolas Maduro dont il réclame le départ. Elle lance un appel à une grève générale pour demain. Une crise politique majeur dans un contexte économique catastrophique sous l'effet de la chute des cours du pétrole notamment. En Afrique du Sud aussi, des violences ont éclaté lors de manifestations hier, une nouvelle mobilisation des étudiants. Hier, le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, a réclamé le retour au calme sur les campus. Un appel lancé devant les députés au moment précis où la police tirait des grenades assourdissantes contre des étudiants réunis devant le Parlement. Cela fait plus de 3 semaines que les jeunes protestent contre une hausse des frais de scolarité, Nadine Epstein.
L'enseignement supérieur sud-africain est considéré comme le meilleur de tout le continent africain. Mais cette qualité est prioritairement réservée aux étudiants qui ont de l'argent. Dans un pays où le salaire moyen s'élève à 980 euros, débourser entre 2000 et 3800 euros par année universitaire n'est pas à la portée de la plupart des jeunes sud-africains. Alors quand le gouvernement se prononce pour une hausse de 8% des frais de scolarité pour pallier une inflation de 6%, des milliers d'étudiants se mettent en colère. Grèves et manifestations ont progressivement gagné les grandes universités du pays à l'instar de ce qui s'était passé l'année dernière et qui avait obligé le gouvernement à renoncer à augmenter les frais d'inscription. Les étudiants dénoncent un système universitaire qui reproduit ségrégation et inégalité sociale. Réduire l'accès aux études revient à priver les Noirs de moyens d'améliorer leurs conditions. Selon un institut sud-africain, en 2014, il y a eu 27,5% de blancs sud-africains diplômés contre 5,3% de noirs sud-africains. Globalement, dans la société, bien que l'apartheid soit terminé et qu'une classe moyenne noire se soit formée, la pauvreté frappe 42% des noirs contre 0,8% des blancs. Depuis la mi-septembre, la contestation étudiante a entraîné beaucoup de violences, incendies, actes de vandalisme, affrontements avec la police. Une jeune étudiante, leader du mouvement de protestation, a reçu 13 balles en caoutchouc. Personne ne nous écoute, ni le directeur de l'université, ni le gouvernement, explique un étudiant. Ils envoient la police, nous arrêtent, ils pensent qu'ils peuvent étouffer notre mouvement. Prochainement, les examens de fin d'année doivent commencer et les jeunes se demandent s'ils pourront les passer et ne pas perdre cette année universitaire.
Nadine Epstein. Un hommage rendu hier à François Mitterrand pour le centenaire de sa naissance. Un hommage rendu sous la pyramide du Louvre. Faut-il rappeler ce qu'il a pu subir de critiques, de contestations, d'outrages, d'outrances, a lancé François Hollande, toujours au plus bas dans les sondages, en présence de centaines de proches et d'anciens ministres et collaborateurs. Parmi eux, Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la gauche, qui se verrait bien lui aussi dans la peau de François Mitterrand.
Je suis né dans la circonscription de François Mitterrand en 1962. Mes grands-parents, mes parents ont vécu dans la Nièvre. Donc évidemment, ça a laissé quelques traces sur ma psyché politique. J'ai le souvenir qu'il avait déclaré lorsque il est entré à l'Élysée. Et la phrase suivante, la majorité politique vient de s'identifier à sa majorité sociale. Il y avait comme une sorte d'appel à l'exercice du pouvoir par tous, ce qui a été réalisé dans les premières années de son premier septennat. C'était le Mitterrand du coup d'État permanent qui avait dénoncé le système abusif du pouvoir, sur lequel malheureusement nous vivons encore. Et c'est un petit peu en ayant transporté jusqu'à nous son héritage que je défends aujourd'hui dans ma candidature à l'élection présidentielle la naissance d'une République nouvelle. Pour que tout un peuple se sente appelé à exercer les pouvoirs qui sont en vérité les siens. Fin de citation.
Propos recueillis au micro France Culture de Boris Allier. Celle qu'on a surnommée l'Afghane aux yeux verts ou la Mona Lisa du tiers-monde, en référence à une photo du National Geographic de 1984 devenue mythique, a été arrêtée hier au Pakistan avec de faux papiers d'identité. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur France Culture. Le temps, du soleil sur la moitié sud, des quelques nuages sur le nord, mais le temps sera dégagé cet après-midi presque partout. Température plus fraîche ce matin, 8 degrés à Nancy, 9 à Paris, 12 à Bordeaux, jusqu'à 21 degrés sur la Corse.